Notre Dieu et Père, nous te sommes reconnaissants de ce que, Seigneur, non seulement tu nous as donné ta parole, mais tu l'as incarnée. Toi, Jésus, qui es et qui était la parole, Seigneur, toi, tu es devenu cette parole au milieu de nous qui t'est exprimée. Et nous te sommes tellement reconnaissants de l'avoir fait et de nous l'avoir laissé, Seigneur. Nous te remercions de ce que cette parole aujourd'hui peut exposer dans ce mantois. Et nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux qui viennent, pour être, Seigneur, à l'écoute de ce que cette parole a leur dire. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore que ce soit pas un temps, Seigneur, où simplement nous entendons des choses, mais donne-nous d'être prêts, Seigneur, à les mettre en pratique. Nous te le demandons, Père, dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin je poursuis cette série d'enseignements sur les idoles du cœur, donc tiré de ce livre d'un pasteur qui est à New York, je crois, en tout cas aux États-Unis, qui a creusé cette question, qui m'a beaucoup interpellé dans ces dernières années pour reconstruire une église solide. Et là, nous allons plus loin dans cette compréhension de ce que c'est qu'une idole, au travers de personnages bibliques. Hein. Alors là aussi, je reviens un tout petit peu sur cette notion de Bible. Hein. La Bible, c'est une bibliothèque de livres, hein, 66 livres dans nos Bibles protestantes, 81 dans les Bibles orthodoxes. Ces livres sont bien sûr des livres sacrés, on appelle ça des livres sacrés parce que ils sont inspirés de Dieu, mais ils sont pas sacrés au sens du Coran. Hein. Le Coran, pour ceux qui ont entendu la conférence, il n'a de valeur sacrée que dans la langue originale, dans l'arabe. Donc les traductions ne sont pas considérées comme sacrées. Pour nous, la Bible, c'est pas ça. C'est pas le texte qui est sacré. C'est le message qui dégage. Et pour ça, nous faut comprendre le message. Et pour ça, d'ailleurs, le mieux, c'est d'avoir plusieurs traductions à sa disposition pour bien comprendre le message. Ce qui est important, c'est pas le texte qui est écrit, c'est ce que nous comprenons. Voyez-vous, c'est le récepteur, c'est la relation. C'est pour ça qu'on parle de relation, pas de religion. C'est moi, c'est toi qui est important dans cette connexion avec Dieu. Et pour ça, il faut le comprendre. Comprendre, c'est prendre en soi. Voyez-vous, comprendre. C'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est prendre en soi une parole et la laisser produire du fruit. Amen. Et une façon de le faire, c'est de comprendre que tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction, mais pas pour prendre comme modèle des gens, de les idéaliser, hein, donc des personnages comme Abraham, Moïse, Jacob, etc. Le seul qui est à prendre comme modèle, c'est Jésus. Et en plus, on l'idéalise pas. C'est pas une idéalisation d'un être humain. C'est une personne réelle qui est venue. C'est Jésus, en chair, qui est venu. Il s'est incarné. Voyez-vous, donc on est loin de l'idéalisation, loin d'une projection sur un personnage. Et c'est pour ça que les personnages, il faut les voir comme nous, avec leurs défauts, leurs qualités, et leur progression. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certains progressent et d'autres progressent pas. Nous avons vu que Abraham, il avait de l'idolâtrie dans son cœur. Et Dieu a dû faire quelque chose de terrible pour lui arracher cette idolâtrie. Il a lui demandé son fils, de le sacrifier sur l'autel. Bon, au travers de ça, Dieu s'est glorifié parce qu'il en a fait un symbole de ce qui allait se passer au travers de Jésus. Mais n'empêche que il était attaché à l'idole de son fils, Isaac, et Dieu a dû faire un travail dans son cœur pour enlever cette idole. Nous avons vu dans Jacob aussi, hein, cette idole de Rachel. Hein. Et à cause de cette idole de Rachel, eh bien, il a pourri, c'est le mot, pourri l'ambiance de sa famille. Hein. Il a complètement pourri. C'était pas un père idéal, hein, loin de là. Hein. Et il faut l'accepter, ça. Ce sont des réalités, et il faut qu'on tire des leçons. Moi, je connais beaucoup de pasteurs qui ont beaucoup de problèmes, et ceux qui étaient à l'équipe, vous l'avez entendu, mais ils s'en sont jamais sortis parce que ils n'ont jamais réfléchi pourquoi ils ont des problèmes. Vous savez, quand on a des problèmes, dans un couple, c'est toujours 50-50. Ceux qui veulent dire tout est de la faute de l'autre, ils sont complètement faux. Ça n'a jamais existé. Et dans une église, c'est pareil. Le pasteur a toujours des choses à apprendre. Michel et moi, quand on a eu des gros problèmes, on s'est remis en question. On a demandé de l'aide de l'extérieur. On a demandé, on a réfléchi, on a des nuits entières, on a cherché et des années entières. Et je crois qu'on a tous, quand on est dans une situation difficile, des choses à apprendre. Il y en a qui n'ont rien à apprendre ici? Levez la main. Je vous rencontre à la sortie. Et je vous demande vos secrets. Non, on a tous des choses à apprendre. Et Jacob, eh bien, il n'a rien appris. Il est resté bloqué sur sa Rachel et il a pourri la vie de sa famille. Léa, par contre, elle a appris. Léa s'est remise en question. Vous rappelez l'histoire de Léa? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me le résumer en 3 secondes? Rapide. Léa. C'est le message du dimanche dernier. Vous vous rappelez plus? Alors je vais le refaire, le message du dimanche dernier. Parce que vous savez, si vous vous rappelez pas des messages, ça sert à rien, hein. Qu'est-ce qui peut me résumer l'histoire de Léa? Allô? Pas ceux qui étaient pas là, mais ceux qui étaient là. Non? Personne. Voilà. Il y a Jérôme aussi qui veut prendre la parole. Lève-toi et parle. T'as rien d'autre à dire? Ok. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui?
Lève-toi pour que tout le monde t'entende.
Comment il l'a fait en tournant vers Dieu? Et ça veut dire quoi, Judas? Voilà. Amen. Voilà. Très bien. Très bien, Laurence. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Vous voyez, au travers des noms, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les noms, on les donne pas toujours par compréhension de ce que veut dire le nom. Mais à l'époque, tous les noms avaient une signification profonde. C'est-à-dire qu'on donnait un nom qui voulait dire quelque chose, soit prophétiquement, soit d'autres choses. Et ces noms-là nous montrent que Rachel, dans les 3 premiers noms qu'elle a donnés, elle voulait avoir l'approbation de son mari. Elle voulait que son mari regarde vers elle, puisqu'il regardait tout le temps vers Rachel. Et elle n'existait pas. Déjà, elle était mise à l'écart par son père, hein, par la société, parce que apparemment elle louchait, donc la dot n'était pas terrible, quoi. Peut-être même jamais avoir de dot. Donc voilà, elle était vraiment pas, je dirais, comment dire ça, elle n'était pas rangée par la nature, c'est ça, comme on dit. Enfin bon, elle n'avait pas d'atout comme Rachel, mais ça lui a permis à un moment donné de réaliser que comme son mari se tournait pas vers elle, malgré les appels pressants, hein, qui étaient « regarde vers moi, je suis ta femme, j'ai besoin de que tu t'intéresses à moi, j'ai des enfants, je t'ai fait des enfants », eh bien, au moment où elle a le 4e garçon, elle lui donne le nom de Judas, c'est-à-dire « louange à l'Éternel, c'est toi, Seigneur, qui me donne, eh bien, le salut, mon identité, ma vie, mon existence, mon identité en toi. » Et c'est ça le message du chrétien. Si le chrétien ne cherche pas son identité en Christ, s'il le cherche dans tout un tas de choses, il ne sera jamais heureux. Il sera toujours rempli d'idoles. Parce que notre cœur est une fabrique d'idoles. C'est une fabrique en permanence d'idoles. C'est-à-dire qu'on s'attache à des choses au lieu de s'attacher à Dieu. C'est ça le principe de l'idole. Et donc là, nous voyons que Léa, eh bien, s'adresse à Dieu et se détourne de son mari, se détourne des autres choses et cherche l'approbation de Dieu. Et ensuite, après, elle aime son mari. Après, elle aime ses enfants. Après, vous voyez, c'est d'abord une relation avec Dieu qui nous donne notre identité pour être. Et c'est ça, leader en bonne santé. C'est ça qu'enseigne Paul Goulet de manière très très pratique. Donc, nous voyons que Léa, au travers de Judas, eh bien, sa vie est changée. Est tellement changée qu'elle comprend que Dieu s'intéresse à elle et qu'elle devient l'arrière-grand-mère de Jésus. Et c'est pas la belle Rachel qui devient l'arrière-grand-mère de Jésus, c'est Léa, celle qui l'a mal aimée. Elle était bien aimée de Dieu. Et Dieu a pourvu pour elle, lui a donné une descendance, celle de Jésus. Amen. Pas formidable ça? Voyez-vous, Dieu s'intéresse à ceux que le monde ne s'intéresse pas. Parce qu'il s'intéresse aux plus pauvres, il s'intéresse à l'orphelin, il s'intéresse à celui qui est délaissé. Mais c'est pas nous qui devons avoir une misérabilité, même si nous sommes délaissés. Ceux qui sont délaissés, ceux qui sont pauvres, ils doivent avoir la tête droite. Parce que cette tête, elle regarde à Jésus. Voyez-vous? Et nous pouvons avoir une tête droite. Et quelqu'un qui est venu ici pour le défi, Michel, a dit que la pire pauvreté, c'est la pauvreté anthropologique. C'est-à-dire pas la pauvreté, pas avoir de sous. Ça, c'est pas de la pauvreté. La pauvreté, c'est notre âme. Qui est-ce que je suis? Si je suis pauvre dans mon âme, y a plus rien à faire. Mais si je suis riche dans mon cœur, par la puissance de Jésus, là, je suis riche. J'ai pas besoin d'avoir d'argent. Mais je suis riche dans le Seigneur. Amen. La vraie richesse, c'est de posséder Jésus. Il y en a qui possèdent Jésus dans leur cœur? Alors regardez à lui. Et vous serez riche dans toutes les situations parce que Dieu, il remplit toute la terre. Amen. Alors ce matin, c'est un autre personnage qu'on va voir. Il y en a qui le connaissent, non? J'ai fait une fuite là-dessus, non? J'ai pas fait de fuite. C'est bien, alors. Je peux garder les secrets. C'est Zachée. Il y en a qui connaissent Zachée? Allô? C'est qui Zachée? Pardon? Pardon? J'entends des choses qui mettent du kick. Voilà. Pardon? Ouais. Vous allez voir, hein, on va préciser les choses. Juste pour placer les choses dans leur contexte, de l'idole de l'argent. On avait parlé de l'idole de la romance de l'amour. On a parlé de l'idole d'un fils ou d'une fille ou d'un être auquel on peut s'idolâtrer. Là, ce matin, c'est l'idole de l'argent. Alors, vous savez qu'il y a une crise financière qui a balayé le monde il n'y a pas longtemps. En quelle année? Pardon? Non, c'est 2005-2006, 2008, c'est la conséquence. 2005-2006 a commencé une crise financière au niveau de la planète et elle a sapé les fondements de tout le système économique qui a été posé à Bretton Woods après la guerre, ah non, juste avant la guerre, en 1944. Là, je fais un peu d'économie. 1944, juste avant la fin de la guerre. Il y a eu un fondement, un système financier qui a été posé. Vous le saviez ça? Bretton Woods. Voilà. Voilà. Et à l'époque, c'est les États-Unis, ils avaient 80% des réserves mondiales d'or. 80% des réserves mondiales d'or. C'est pour ça, ceux qui connaissent un peu l'histoire, De Gaulle s'est fâché, il les a mis dehors de la France, enfin voilà. Ça explique beaucoup de choses. De l'attitude de De Gaulle vis-à-vis de ça. C'était les maîtres du monde. Et ils ont imposé, parce que, vous savez, dans ce système économique, alors là, je vous renvoie à Samuel, il est beaucoup plus calé que moi là-dessus, et toutes ses études là-dessus, donc moi j'y vais à pas feutrer là-dessus, je suis pas spécialiste, mais si vous voulez avoir un système économique, il faut que ce soit basé sur quelque chose. Et la seule valeur réelle, c'est l'or. qui est toujours une valeur refuge, hein, et qui est une valeur sur laquelle on peut dire, voilà, parce que sinon vous pouvez battre des monnaies autant que vous voulez, hein, les billets c'est rien du tout. Hein. En Allemagne, ils remplissaient des brouettes entières de marques, et ils tapissaient leurs toilettes avec, parce que ça valait rien du tout. Hein. C'est ça qui a causé aussi la crise des Allemands pour laisser monter Hitler au pouvoir. Bon, ça c'est la politique, mais je vais pas rentrer là-dedans. Juste pour dire que tout le système économique était basé sur Bretton Woods en 80, et c'est ça qui s'est écroulé. En 2005, la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, a juste haussé le taux directeur. Hein, le taux directeur a juste haussé un petit peu, et ça fait écrouler tout le système. Voyez-vous comme quoi ça repose sur pas grand-chose. Ça fait écrouler tout le système de l'équilibre financier, hein, et bancaire. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, et on est entré dans cette crise-là. Et ça, c'est l'accumulation de la cupidité. C'est quoi la cupidité? Quand on te dit être cupide, ça veut dire quoi? Pardon? C'est l'amour de l'argent? Oui? L'avarice? C'est s'attacher à l'argent. Hein. La cupidité, c'est de chercher un maximum de profit. Hein. C'est vraiment que l'argent, c'est mon moteur. C'est celui qui me donne, hein, la capacité de vivre. Hein. Et cette cupidité, à laquelle on est arrivé en 2005, c'est celle qui donc a provoqué cette crise majeure dans le monde. Ceci est dû à l'idole de l'argent. C'est devenu une idole majeure. Vous savez dans quel sens va l'histoire? Vous connaissez le sens de l'histoire ou vous n'avez pas de sens de l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Je m'adresse à qui? Je m'adresse à des chrétiens qui ont laissé leur Bible? Non? Eh oh! Vous êtes toujours endormis là? Ça va pas? Alors? Vous avez peur, vous avez quoi? Je sais pas, avec quelque chose qui se passe. Oui. Voilà, bien. Vers la venue de Jésus. Ça, c'est bien. Ça, c'est dans le ciel. Et sur la terre, dans quel sens on va pour aller dans ce sens de la venue de Jésus? Alors? Est-ce que vous connaissez votre Bible? Ah ben, utilisez vos connaissances. Venue de Jésus. Parce que si vous connaissez pas le sens de l'histoire, je ne sais pas comment vous pouvez avoir de l'espérance. Hein. L'espérance vient de ce qu'on n'est pas angoissé par l'avenir. On connaît l'avenir. Hein, et là, on est serein. Donc il faut que vous connaissiez votre avenir. Alors, venu Jésus, qui peut dire plus? Oui? Très bien. Voilà. C'est bien, ébranler les systèmes de ce monde. Tu voulais dire? Voilà. Alors je vous pose aussi ces questions-là parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, en particulier aux États-Unis, mais ça vient en France, qui connaissent plus les systèmes justement gouvernement mondial et tout ça, et deviennent paranoïaques. Vous savez ce que ça veut dire, paranoïaque? Voilà. Ben, ils deviennent paranoïaques et connaissent plus ça que la Bible elle-même. Mais ce qu'il faut, c'est pas devenir paranoïaque, c'est avoir les yeux ouverts et savoir ce qui se passe. Amen. Clairement. Ok, donc là il y a une réponse. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Quelqu'un veut la donner? Maintenant que vous êtes plus dégagé là, vers quoi on va? Qu'est-ce qui permet de connaître les temps dans lesquels nous sommes, tout simplement? Pardon? Des guerres et des bruits de guerre. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a toujours eu, mais c'est ouais, non c'est marqué. Mais voilà. L'enlèvement aussi, ouais. Mais il y a une chose, moi qui me marque, parce que j'étais né en 1948. Donc moi je peux pas l'oublier. Vous pouvez peut-être l'oublier. Bah oui, Israël. Je veux dire, Israël, c'est quand même quelque chose d'historique qui n'a jamais existé dans le passé. Et 1948, c'est une date dans l'histoire. Ok. Donc le retour d'Israël dans son pays. Amen. Donc c'est un milestone, on appelle ça. Voilà. Donc les Juifs, Israël. Donc c'est important. c'est toute la parabole de Jésus, hein, sur le figuier, sur voilà. C'est important d'avoir des bases sur lesquelles nous pouvons ne pas douter. Et ça, c'est pas de la paranoïa, c'est de l'espérance. Voyons Israël refleurir et revenir. Autre élément important qui vous permet de repérer les temps dans lesquels nous sommes. Pardon? Oui, alors toi tu as pas d'excuses, il faut que tu me donnes la bonne réponse, parce que en anglais, c'est un nom spécial l'Antéchrist. Yes, very good, very good. Low, less, less. Parce que l'anglais est une langue pratique, c'est pas une langue idéologique, donc elle utilise des noms qui sont très proches de l'hébreu, qui est une langue pratique. Lawlessness, ça veut dire quoi? Sans loi, l'homme sans loi. Ok? Et l'homme sans loi. L'homme sans loi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi. Ça veut dire qu'il est contre la loi de Dieu. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il va, enfin, que le monde, petit à petit, en particulier depuis 48, justement, est une accélération de l'absence de loi. Ou tout au moins de lois qui vont à l'encontre de celle de Dieu, et qui vont libéraliser. Vous savez ce que ça veut dire, libéraliser? Parce que des fois, je dis ces mots, peut-être c'est pas compris. Ça veut dire quoi, libéraliser quelque chose? Voilà, tout est permis. Et donc, ce sont des lois qui vont dire, toi, Rodrigue, tu peux faire ça. Toi, tu as le droit de faire ça. Toi, Jérôme, tu peux faire ça aussi. Voyez-vous? Et en fait, c'est contradictoire, mais bon, donc en fait, ça va gérer des conflits. C'est-à-dire qu'on va légaliser des choses où chacun peut faire ce qu'il veut, mais en fait, justement, c'est l'État qui va complètement être vidé de son contenu, qui devait être quelque chose d'ordre, quelque chose qui amène de l'ordre. Et en fait, ça va amener le chaos, parce que l'idée, c'est d'aller vers le chaos. Et c'est ça l'objectif. Donc, pour aller vers le chaos, hein? Ça, c'est l'œuvre de Satan. Il va pousser à ce que les États, que l'ensemble des choses va vers quelque chose qui est sans loi. Vous voyez ça dans nos sociétés? J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez, il suffit de comprendre la Bible pour comprendre dans les temps que nous vivons, c'est tout. Donc, c'est pas une question de paranoïa, c'est une question de lucidité. Il faut être lucide, ok, pour voir où nous en sommes. Donc, l'homme sans loi, c'est ce vers quoi on va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Pour ceux qui ont, bon, vous, ceux qui sont nés après les années 60, vous pouvez peut-être pas le savoir. Encore que. Bien. Bien. Dans les années 60, 48, 1960 et particulièrement 68, hein, mais ça a commencé dans les années 60. Il y a eu la révolution de quoi? Peace and love. Quoi? Mai 68, c'était quoi comme révolution? Hippie, aux États-Unis. Voilà. Toute l'autorité était bafouée. On veut plus d'autorité, on veut être libre. Hein. Dans le métro, c'était marqué, il est interdit d'interdire. Voilà. C'est la révolution des mœurs. Hein, qui, depuis le 19e siècle, était connu pour être la morale bourgeoise, entre guillemets. Et on voulait plus de la morale bourgeoise, on voulait une liberté totale. Donc, en 60, et en fait, c'est le Peace and Love, effectivement, aux États-Unis, qui a marqué cette époque-là, qui était aussi la révolution sexuelle. Hein. On a eu du sexe, on peut faire ce qu'on veut. Comme dans le reste aussi, hein. Mais bon, là, tout le monde en a profité au maximum. Hein. Révolution sexuelle avec la drogue, avec tout ça, voilà, on y va à fond la caisse. Et donc, ça a libéré ici quelque chose pour aller dans ce sens-là, l'homme sans loi, d'accord. Et aujourd'hui, le mariage pour tous, c'est simplement une conséquence, hein, de ce qui a été initié, mais qui est simplement une conséquence. Ok. Plus récemment, là je vous parlais de 65, 1960, pardon, 2005, 2006, Je vais pas faire un cours de sociologie ce matin, hein, mais bon, il faut quand même savoir un peu dans quoi nous vivons. 2005-2006, qu'est-ce qu'il y a eu? Je viens de le dire tout à l'heure. Crise économique, qui est une implosion du système économique qui était basé en 44, qui fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'il permet? Quel est le sens dans lequel vont les lois? Quelle était la révélation en fait de cette crise? Qu'est-ce qu'elle a révélé en fait? Pardon? Non, le chaos c'est la conséquence, mais qu'est-ce qu'elle a révélé? Alors les gens vivent au-dessus de leurs moyens, hein, les dettes augmentent et puis voilà, l'endettement massif. Mais il y a quelque chose de particulier. Vous n'avez pas entendu parler de bulle? On a parlé beaucoup de bulle. C'est quoi cette bulle? Pardon? Bulle immobilière. Pardon? Et ça veut dire quoi ça, concrètement? Tout simplement, un langage simple. Encore plus simple. Très simple, soyons très simples. Pour que tout le monde comprenne. Oui. C'est la spéculation. Le mot qu'il faut dire, c'est spéculer. Spéculer. Ça veut dire quoi, spéculer? Aujourd'hui, vous avez des advertisements, comme ça, des publicités, hein, qui vous disent, toi, tu peux être trader. C'est quoi, trader? Voilà. Voilà. Peu de trader. Un clic sur, vous voyez, c'est même facile. Un clic, tu peux être trader. Tu peux gagner 500 000 euros en une minute, c'est ça? J'invente rien. Non, mais est-ce que j'invente? Ou est-ce que vous vivez dans ce monde-là, donc vous le savez. Essayez de mettre ça en rapport avec la Bible, et comme ça vous serez averti sur ces choses-là. Aujourd'hui, on vous dit. Vous pouvez gagner de l'argent juste en un clic. C'est quand même formidable, ça. Vous rendez compte? Mais est-ce que vous savez ce qui se passe derrière dans le mécanisme économique? Ben non. Et c'est comme ça que le monde va exploser. Parce qu'avant, cette crise, le travail, c'est de la richesse. Donc il y a, derrière le travail, il y a de l'argent qui est un équivalent. Mais dans la spéculation, il n'y a plus rien. La spéculation. Vous spéculez. Vous dites, voilà, moi, il y a une valeur qui monte, je vais prendre cette valeur-là, et quand elle sera en haut, hop, je la revends, j'achète autre chose, etc. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas participé, surtout si ça dure même une journée, vous n'avez pas participé au tissu économique. Voyez-vous ? Vous avez spéculé. Et tout le monde veut spéculer parce que tout le monde veut gagner de l'argent facile. Tout le monde veut gagner de l'argent rapide, sans travailler, sans rien faire. Juste être derrière son ordinateur et cliquer. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Okay? Et ça s'appelle de la cupidité. Et la Bible dit quoi de la cupidité? Qu'est-ce qu'il dit Paul? Qu'est-ce qu'il dit Paul, la cupidité? C'est une idolâtrie. On va le voir tout à l'heure. Allô? Vous êtes avec moi? C'est une idolâtrie. Et l'amour de l'argent, c'est... Voyez-vous, nous sommes, simplement il faut ouvrir les yeux un petit peu, ne pas être dans la paranoïa, ça sert à rien la paranoïa, c'est simplement, ah, j'ai peur, vous n'avez pas, dire simplement ne le faites pas ça, la peur, vous, et que vous continuez vous à faire comme tous les autres, ça sert à rien, donc sachez ce que vous faites, vous voyez, il faut savoir ce qu'on fait, on participe au chaos ou on participe pas, donc la spéculation c'est ce qui a permis, sans rentrer dans le mécanisme de la spéculation qui a amené à la crise 2005-2006, qui a amené cette crise-là. Simplement la spéculation. Non pas le produit d'un travail, mais le produit d'une spéculation. Et ça, c'est directement la cupidité. C'est-à-dire que c'est la cupidité à l'état pur. Voyez-vous? Avant, on était dans de la cupidité, disons à l'état grossier. Là, on est à l'état pur. On est arrivé à un raffinement de la cupidité qui entraîne l'homme à sa perte. Et il y a un philosophe qui a prédit cela. Étonnant d'ailleurs, de la part de ce philosophe. Quel est le philosophe, à votre avis, qui a prédit ça? Que Dieu va être remplacé par l'argent. C'est le philosophe Nietzsche qui a prédit la mort de Dieu. Vous voyez, c'est Nietzsche. Voyez-vous, les philosophes souvent ont un sentiment... un pressentiment de ce qui va se passer. La dernière fois, quand je vous ai parlé de l'idolâtrie de Jacob, je vous ai parlé du philosophe Ernest Becker, qui, vous savez, les philosophes, ils ont l'art de se retirer un peu, de regarder le tableau et de donner une vision des choses. Et il disait que on était, dans les années 60, dans une... Quoi ? Vous rappelez ce que j'avais prêché ? Une romance apocalyptique. Non ? Ça vous dit rien ? C'est quoi ça ? Eh bien, simplement qu'on projette sur un amant, sur quelqu'un qu'on aime, puisque Dieu n'existe plus, je parle des non-chrétiens, on projette, parce qu'on a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Il peut pas s'en passer. Donc en fait, il va diviniser celui qu'il aime, son amant, son amante, tout ça. C'est ça, la romance apocalyptique. Et du coup, on va s'attendre à l'autre, à ce qu'il soit comme Dieu, pour nous satisfaire, pour nous donner ce qu'on a besoin, etc. On attend tout. Et c'est ça l'idole. Et cette idole amène à la catastrophe. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de Jacob, qui est dans la romance apocalyptique par rapport à Rachel. Et qu'il n'a pas réussi sa vie de père et sa vie au niveau de ses enfants. Toute idole nous amène à vivre une destruction de notre vie. Pour revenir à l'argent, puisqu'on est là-dessus, Frédéric Nietzsche a prédit que l'argent remplacera Dieu. Et il s'est pas trompé, puisque on en est là actuellement. L'argent, alors c'est quelque chose de très fort, parce que ça donne du pouvoir. Si je vous donne 50 millions d'euros, vous avez un pouvoir. Vous pouvez faire des choses incroyables. Et ça, ça donne ce sentiment de pouvoir, de domination, de contrôle, et qui amène au paroxysme du mal que nous allons malheureusement connaître. Par exemple, l'industrie pornographique. Vous savez que l'industrie pornographique, suite à la révolution de 68, avant, c'était pas une industrie. Il y avait toujours de la pornographie, ça a toujours existé. Mais l'industrie de la pornographie, depuis 68, ramène plus d'argent que tout Hollywood. Que tous les films, que toute la production. Tout ça, oui? Vous savez pas? Je vous l'apprends. Vous voyez, ça veut dire que la révolution des mœurs, il faut à un moment donné casser quelque chose, permettre lawlessness, permettre une loi de rentrer là-dedans. Et ensuite, après, il y en a qui se font un maximum de fric. Vous voyez ? Et avec ça, ils peuvent aller plus loin, ils peuvent grandir, ils peuvent avoir plus de puissance, plus de moyens, plus voilà. Et ça s'accélère comme ça. Vous voyez ? Et donc, l'argent, effectivement, est dans la chronologie de l'idolâtrie, quelque chose qui permet d'aller plus vers le sens de l'histoire. Le profit est roi. Et c'est ce qui détruit aussi les relations dans les industries, dans les, ce que vous entendez à la radio tous les jours, c'est lié à ça. Le profit, c'est le maître mot de... Il y a actuellement des multinationales, et Samuel me dira pas le contraire, des multinationales qui sont plus riches que des États. Plus riches que des États. Je ne parle pas des États-Unis, je parle de certains États. Avant, c'était les États qui contrôlait, qui régulait les choses, qui pensait au bien au bien du peuple, la démocratie et tout ça, qui faisait les écoles, qui faisait tout un tas de choses, etc. Aujourd'hui, ils sont obligés de tout vendre pour plus rien avoir, parce qu'il faut payer les retraites, il faut payer le social et tout ça. Et c'est les industries qui prennent la relève. Et eux, ils ont un pouvoir, une puissance supérieure à des États. C'est pour ça que les chefs d'État sont contrôlés par tout le système de l'argent. Le piège de la cupidité. Le problème, c'est qu'à chaque niveau, chacun de notre niveau, là je parle de la géopolitique, mais à notre niveau, nous sommes aussi piégés par cela. Et nous-mêmes, nous pouvons entrer dans ce système-là. Que ce soit nous, que ce soit des pasteurs, que ce soit des églises, nous sommes tous piégés parce que on a l'impression que c'est normal. Et que c'est intéressant parce que ce pasteur, là, Timothée Keller, qui a prêché ça dans son église, dans son église et puis des hommes d'affaires aussi. Et à un moment donné, il est arrivé à ce passage sur l'argent. C'était, je crois, tous les samedis, il prêchait là-dessus. Sa femme a dit, ah, aujourd'hui, tu vas avoir personne. Dans ton, a dit, ah bon? Comment tu sais ça? C'était des pasteurs, c'était des leaders et tout ça. Il a dit, ah, tu vas prêcher sur l'argent, tu vas avoir personne. Effectivement, il avait personne. Enfin, il avait quelques clampins là qui étaient là pour écouter son prêche. Et pourquoi? C'est encore une loi. Parce que personne ne se sent cupide. Personne ne se sent cupide. C'est ça le drame. C'est que quand on est cupide, on a l'impression de ne pas l'être. C'est le problème du déni. Vous prenez les Américains, dans son ensemble. Les Américains ne pensent pas être cupides. Pourtant, c'est les plus riches. Quand vous allez aux États-Unis, vous voyez que c'est le pays le plus riche, quoi. Mais ils n'ont pas l'impression d'être cupides, voyez-vous. Ils sont même généreux dans la plupart du temps, etc. Mais en même temps, ils sont cupides par rapport à l'ensemble de la planète, puisque pour je sais plus combien de millions ils sont, 300, par rapport à 3 milliards, enfin là, les chiffres, je suis pas sûr de moi, tout ça, enfin, ils utilisent 40% des ressources de la planète. 40% des ressources par rapport à un pourcentage de population. Vous voyez, mais ils ne se sentent pas cupides. Et dans l'église, c'est pareil, on ne se sent pas cupide. Alors on va prendre l'histoire de Zachée. Vous tournez avec moi dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. On va arrêter là la lecture. Le texte est assez sombre, mais il est très clair. Je voudrais corriger quelque chose que Joël, quand il était venu, avait voulu rectifier dans le mauvais sens, je le rectifie dans le bon sens, où il voulait... à partir d'une lecture textuelle. Il faut se méfier des lectures textuelles de la Bible. Hein, où il voulait nous faire croire, d'après certains pasteurs, que Zachée, c'était pas un gars aussi mauvais que ça. Occasionnellement, il dérobait peut-être et puis il était prêt à rembourser, enfin comme il le dira après, etc. Or, je peux vous dire que c'est pas du tout ça. Ça, c'est une mauvaise lecture de la Bible. Il pensait rectifier les choses, mais en fait, il n'a rien rectifié du tout, parce que la vérité, c'est pas ça. Alors, je vais vous faire réfléchir. Il faut réfléchir un peu. C'est ce que je vous disais en préambule. La Bible, c'est pas un livre de recettes. C'est pas un livre sacré au sens où, comme le Coran, on l'écoute, et puis voilà, il va faire produire quelque chose en moi de magique. C'est quelque chose qu'il faut passer par notre compréhension. Or, pour comprendre les choses, il faut comprendre les personnages, il faut comprendre les situations, il faut comprendre la manière dont les gens vivent. Ok? Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé pendant la guerre de l'occupation française par les nazis? Vous avez tous entendu ou vu des films de ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Des collabos. Et qu'est-ce que c'est un collabo? Qu'est-ce que c'est un collabo? Il y avait des collabos en France. Qui pactisent avec l'ennemi. Ok? Des collabos, hein, c'est des gens qui, quand le conquérant arrive, alors c'était le cas en France, mais là c'était le cas des Romains à l'époque, c'est la même chose, et c'est toujours la même chose quand il y a des conquêtes de certains pays, il y a des collabos, il y a des gens qui se mettent au service de l'ennemi en lui donnant un coup de main dans sa tâche de réguler le pays. Alors il y a des collabos qui le font par intérêt, je dirais, du pays, en disant, ouais, vous allez dire, bon, c'est un moindre mal, bon, gouvernement de Vichy, etc., ça permet de garder la France libre, etc. Mais il y a des collabos et des collaborationnistes. C'est quoi la différence entre un collabo et un collaborationniste? Hello? Qu'est-ce que ça veut? Quelle est la différence? Pardon? Donne des infos. Pardon? Oui, il y a de ça. Vas-y, vas-y, dis-le. Voilà. Alors bon, ça c'est très philosophique, mais tout simplement, les collaborationnistes, c'est ceux qui pactisent avec l'ennemi en adhérant à leur thèse, c'est-à-dire en épousant leurs idéologies. C'est-à-dire que des Français collaborationnistes, c'est-à-dire qu'ils adhéraient à la thèse des nazis. Ils ont dit ça c'est bien, être nazi, vous voyez? C'est-à-dire qu'ils devenaient nazis carrément dans leur cœur, voyez-vous? C'est une différence entre celui qui dit je suis collabo, bon ok, je me fais une raison d'être collabo. Et le stade au-dessus, c'est, alors là, j'admire les nazis, vous voyez? Et ça, c'est le collaborationniste. Vous voyez la différence? Ça se passe dans le cœur. Okay? Un qui dit par raison, ok, je fais ça, c'est déjà pas bien, mais bon, voilà. Puis l'autre qui est en accord avec les thèses de la personne, bien sûr, ce qu'a dit Jérôme, c'est vrai, mais c'est en deuxième niveau, c'est assouvi. Moi, ma mère, elle nous disait que pendant la guerre, nous on était en Alsace, hein, donc en Alsace, on était allemands. Enfin, ils étaient allemands, j'étais pas encore né. Et il y avait une dame en face, qui d'ailleurs a toujours été pourrie de toute sa vie. Bon, c'est déjà une personne, vous voyez, c'est souvent des gens pourris. Enfin, pourris au sens de, voilà, pas du tout intègre et tout ça. C'était une épicière. Elle est épicière. Et en fait, elle était collaborationniste. Et en tant qu'épicière, il n'avait pas besoin, comme par exemple un gouverneur qui était placé dans la France libre, de faire son travail. Elle a choisi d'aider les nazis. Et donc, elle allait avec les nazis, elle couchait même avec eux. Bon, au passage, c'est juste un détail. Et en fait, elle rapportait tout. Et quand elle entendait que chez mes parents, ils ouvraient la radio libre pour écouter De Gaulle, elle racontait. Et ils venaient pour les emmener au camp de concentration, voyez-vous? Bon, ma grand-mère était quelqu'un qui se laissait pas faire, mais ça c'est un autre point de vue. Et elle envoyait mon grand-père dans les champs et s'occupait des nazis. Et on s'en est sorti. Mais voilà, les collaborationnistes, ils vous trahissent, voyez? Parce que vous n'êtes pas du côté de l'ennemi, hein, voyez-vous? Eh bien, je peux vous dire, Zaché était un collaborationniste. Alors, comment je peux vous dire ça? Comment je peux affirmer ça? Bien tout simplement par le texte aussi et par le contexte. Un percepteur, un collecteur d'impôts n'est pas quelqu'un qui est obligé d'être collecteur d'impôts. Il choisit son métier. Okay? Il y a tout un tas de métiers. Moi, quand j'étais jeune, je voulais pas être à l'armée parce que j'étais contre l'armée. On choisit des choses. Après, bon, il y a des conséquences plus ou moins graves et on fait des choix en fonction de certaines choses. Mais être collecteur d'impôts, c'était accepter de payer un tribut, c'est un impôt local, pour financer tout l'arsenal de guerre, financer toute la capacité, l'argent, toute la capacité d'envahir le pays, de le soutenir, de le maintenir, de le contrôler, etc. Et Zaché n'était pas simplement collecteur, c'était un archi-telons. C'était un archi-collecteur, c'était un chef des collecteurs. Vous voyez? Donc, ça veut dire des choses-là, ces choses-là se choisissent et s'établissent. Et donc, Zaché était de cette trempe-là. Et c'est pourquoi il était haï de tout le monde. Je peux vous dire que la voisine dont je parlais, elle était haïe de tout le village. On savait qui elle était. On savait qu'elle dénonçait tout le monde. On savait qu'elle racontait tout aux nazis et elle s'en faisait un plaisir. Pour elle, elle jouissait dans cela. Eh bien, voilà Zaché qui avait une double faute. La première faute, c'est de collaborer avec les visées impériales romaines, et deuxièmement, de voler les Juifs. Parce qu'en fait, les Romains leur autorisaient, ça faisait partie de leur travail, ils leur autorisaient à voler les Juifs, et en prendre plus, et à mettre dans leur poche. C'était quelque chose de normal. C'était pas juste une tolérance, c'était allez-y, si Rome vous demande 12%, vous prenez 15, et le reste, c'est pour vous. Comme ça, vous pouvez être plus fort et continuer à collecter des impôts. C'était calculé. Et Zaché était un de ceux-là. Colossiens, chapitre 3, verset 5, nous dit ceci. Colossiens, chapitre 3, verset 5. « Ah oui, juste pour revenir sur l'interprétation erronée, parce que Joël, quand il a parlé de ça, il s'est appuyé en disant « si j'ai pris de l'argent ». Mais en grec, on peut aussi traduire, c'est pas simplement « si j'ai pris de l'argent de quelqu'un », c'est « à qui j'ai fait du tort ». Voyez-vous ? Sûr, c'est aux personnes à qui il a fait du tort. Donc on peut pas s'appuyer sur une analyse comme ça textuelle pour faire des conclusions comme ça. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Faites mourir la cupidité. Voyez-vous, c'est très important. Dans ce texte-là, l'apôtre Paul parle spécifiquement de la cupidité comme une idolâtrie. Donc on est au niveau de quelque chose qui nous tient vraiment sur le plan spirituel. Ceux qui étaient attachés à l'argent, au temps de Jésus, c'était les pharisiens, comme par hasard. Les pharisiens, ça va de pair avec l'hypocrisie, avec le double langage, avec la double être double. Les pharisiens étaient attachés à l'argent parce que l'argent donne de la puissance. Et il permet de contrôler, de dominer, en particulier sur le plan religieux aussi. Le problème, c'est que quand on attend un statut de cette idole, c'était le cas de ceux qui sont riches, ils ont un statut, on les respecte parce qu'ils ont de l'argent, on les fait venir dans les premiers rangs. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, il dit, s'il y a quelqu'un de riche qui vient, vous le mettez à l'honneur, c'est pas bien, vous voyez, le monde le fait. Mais vous n'avez pas à faire de critères de ce genre-là par rapport à l'argent. Eh bien, quand on atteint un statut de cette idole, on est forcé à lui obéir. Et c'est ça le problème de l'idole. C'est que quand on est cupide, quand on est attaché à l'argent, eh bien, on est forcé de lui obéir. Et cette idole, eh bien, amène, comme on l'a vu dans l'histoire, au chaos, à la destruction de la société. Dans Luc, chapitre 12, Jésus va dire, gardez-vous des possessions. Gardez-vous de vouloir posséder de l'argent. Je reviens à Zachée. Et je vais lire la suite de Zachée. Chapitre Luc 19. J'ai perdu la page. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu dans cette maison, parce que celui-ci, c'est aussi un fils d'Abraham. Il faut savoir que Zachée, vu sa condition, vu le regard qu'il y avait sur lui, vu qu'il était un collaborationniste, connu, reconnu et détesté, le fait d'aller dans cet arbre, pour chercher à voir Jésus, ça veut dire qu'il était désespéré. Ça veut dire qu'il sentait le vide dans sa vie. Voyez-vous ? Il y en a qui sont cupides, qui sentent pas le vide, d'autres qui le sentent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Mais chacun a un cœur. Zachée avait un cœur. Et Zachée, il se trouve que lui, dans son cœur, il y avait un vide. Et il voulait voir Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, il avait entendu parler de ce que Jésus faisait, il avait entendu de ce sens. Et au fond, il avait ce soif. Et c'est ça qui l'a poussé à devenir ridicule dans cet arbre. Mais il y est allé parce qu'il était désespéré de voir Jésus. Et vous savez, c'est ça qui est formidable avec Jésus, et c'est ça qui est formidable avec la vie chrétienne, et c'est ça qui est formidable d'être chrétien, c'est que eh bien, on n'est pas dans une pensée unique. On pense comme tout le monde, comme des brebis bêlantes, comme des bœufs, comme tout le monde, voilà. Non, on est des gens qui sont importants aux yeux de Dieu. On a une valeur aux yeux de Dieu. Voyez-vous, Dieu nous voit avec une valeur, il nous estime. Parce qu'il voit notre cœur. Amen. Tu sais que Dieu voit ton cœur? Dieu voit notre cœur. Et contrairement à ceux de ses contemporains, de Jésus, eh bien, Jésus, il tranche, y compris avec ses disciples. Les disciples n'étaient pas mieux que les gens de son époque. Et nous, on n'est pas mieux. Si on n'a pas Jésus, on n'est pas mieux. Il ne faut pas croire parce qu'on est chrétien qu'on est mieux. Donc Jésus manifeste de la compassion à Zachée à la place de la haine et du mépris qui est légitime dans ce qu'il est en train de faire dans la vie, la société. Mais Jésus voit le cœur de Zachée. Zachée qui monte sur cet arbre, qui se cache pour voir Jésus. Jésus voit son cœur. Ça, c'est le grand miracle de Dieu vis-à-vis de nous. Il voit notre cœur. Et il voit son cœur. Et pour Jésus, l'essentiel, c'est le relèvement du pécheur. Pour Jésus, c'est pas la position, c'est pas qu'il soit architélon, qu'il soit publicain ou quoi que ce soit. Il s'en fiche de ce que sont les gens. Il s'en fiche de ce que tu fais. Il s'en fiche, même si tu fais des choses mal, même si, bon, là ce matin, c'est pas le cas, hein, même si tu es dans la drogue, dans la meurtre, dans un bandit quelconque. Jésus s'en fiche de ça. Il regarde pas ce que tu fais. Il regarde à ton cœur. Alors, c'est ça le plus important. Le cœur. Comment est tourné le cœur? Parce que ce que tu es, c'est souvent la conséquence de tes parents qui ont fait sur toi, de la société, de beaucoup de choses, de même des gènes que tu veux voir, l'hérédité, peu importe. Donc tu n'es pas forcément responsable, mais tu es responsable de ton cœur. Est-ce que tu cherches une solution ou pas? Est-ce que tu cherches à t'en sortir ou pas? Est-ce que tu voyez, c'est ça. Et c'est ça que Jésus voit. Tous les gens ont vu Zachée comme celui qui est le collaborationniste, qui collabore avec l'ennemi et qui s'en met plein les poches. Et Jésus a vu son cœur. Jésus voit le relèvement moral du pécheur et le salut éternel de cette personne. Par le seul moyen de sa propre reconnaissance. Le problème, c'est qu'il y a un jeu entre Dieu et nous. Zachée pouvait être sauvé parce que Jésus avait son cœur, il lui a donné une chance. Mais si Zachée n'avait pas pris le risque que Jésus rentre dans sa maison et qu'il tourne son cœur vers lui, il aurait été perdu comme tout le monde. Voyez-vous ? Le problème, c'est qu'à un instant, on choisit de saisir la main de Dieu ou de pas la saisir. C'est ça, le grand mystère. Et c'est ça le grand mystère que nous devons partager la parole à ceux qui nous entourent pour que on n'ait pas le sang qui nous retombe dessus. Mais après, c'est leur choix. On n'a pas à les harceler avec la parole. On n'a pas, si leur cœur est ouvert, ils vont saisir la grâce, voyez-vous. Donc l'évangélisation n'est plus du tout pareil quand on voit les choses comme ça. Nous devons faire ce que nous avons à faire, mais il faut laisser la liberté à la personne, pas la harceler avec nos propos, nos paroles, etc. S'ils sont ouverts, ils vont la saisir. Zachée a saisi. Même sans que personne n'aille le voir, il est monté de lui-même vers cet arbre pour voir Jésus. Mais il faut une repentance sincère. Sans la repentance, les péchés ne peuvent pas être pardonnés. Amen. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi a saisi la grâce. Lui, il persécutait même les chrétiens. Il détruisait les églises. C'était le plus grand persécuteur de son époque. Il demandait même des lettres d'autorisation légitime pour le faire, pour qu'il puisse vraiment détruire les églises en toute impunité. C'était pire que Zachée. Et pourtant, Dieu a vu son cœur. Il savait que c'était un homme qui cherchait Dieu et qui voulait le servir. Et Dieu l'a rencontré à Damas. Et il s'est révélé à lui. Voyez-vous, ça c'est la grâce. La grâce, elle dépasse. Elle dépasse nos limitations. Elle dépasse ce que nous sommes. Et elle nous fait grâce. Mais ne refusons pas la grâce. Que la grâce de Dieu, nous puissions vraiment la saisir. Et je sais que Colin Dye, je crois, responsable d'Elim, en Angleterre, en France, il nous a adressé au pasteur en disant, vous, les chrétiens, vous avez besoin, si vous voulez que les Français viennent au Seigneur. Il y en a qui veulent que les Français viennent au Seigneur. Hein? Pas simplement les immigrés qui viennent ici. Ceux-là, c'est facile, hein? Ils ont le cœur ouvert, ils cherchent le Seigneur. Mais les Français de souche ici. Est-ce qu'il y en a qui veulent toucher les Français de souche ici? Eh bien, il nous a dit, prêchez-leur la grâce. La grâce. C'est la grâce qui va les toucher. Oui? C'est pas le devoir, c'est pas tu dois pas, etc. Ça, ils en ont ras-le-bol. L'église étatique de l'époque a suffisamment fait son travail. Nous manifestons la grâce.